bon. Alors, qu'est-ce que tu veux, Bagheera?
CO2, mon amour.
Balou, la jungle n'est pas un endroit pour lui.
Denis Chessou.
J'ai été élevé dans la jungle. Et regarde-moi.
Oui, oui, regarde-toi, en effet. À vrai dire, tu n'es pas un spectacle réjouissant.
Et toi, t'as l'air d'une vieille peau de chat bouffée par les mythes.
Balou, vois-tu, on dit toujours qui se ressemble s'assemble. Tu n'épouserais pas une panthère, n'est-ce pas?
Mais j'en sais rien. Et jamais aucune panthère n'est tombée amoureuse de moi.
Sur France Inter.
Bah oui, mais nous, les des neiges, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature, CO2 mon amour, avec aujourd'hui Florent Layani à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès. La pluie est en option, mais c'est très bien parce que ça fait du bien au sol et aux nappes phréatiques. Et c'est Jérôme Boulet qui réalise l'émission. Qui commence toujours par une petite humeur. Autant suspend ton vol, mais pas celui des feuilles mortes. Et vas-y que je te souffle dessus avec un moteur thermique dans le dos et un casque anti-bruit, bah sans doute pour ne pas entendre le bruit, le fracas de la feuille qui tombe. Mais aime-t-on vraiment les arbres en ville? Alors en Île-de-France, plein de villes, de Montrouge à Neuilly, de Sèvres à Chaville, Villecresne, Clamart, j'en passe des meilleurs, partout c'est le massacre à la tronçonneuse. Et France Nature Environnement Île-de-France, association très active à laquelle il faut adhérer, eh bien suit ses dossiers. À Meudon, souvenez-vous, l'avenue du Château, bordée de part et d'autre de 600 tilleuls, a donné lieu à une foire d'empoigne mémorable avec des personnes qui se sont attachées, qui dormaient dans les arbres. Moralité, la plupart des arbres qui devaient disparaître ont été conservés, car ils étaient, oui, en bonne santé. Oui, mais alors, monsieur Chessou, vous n'aimez pas le progrès et vous tombez facilement dans la sensiblerie, dites donc là. L'abattage d'arbres d'alignement se fait pour aménager des places de parking, pour faire passer un réseau électrique, la fibre optique ou pour élargir une avenue. Souvent, on ne replante rien, ou alors des arbustes avec ou sans fleurs qui n'auront pas les mêmes effets sur la qualité de l'air, la protection contre le rayonnement solaire. Prenons la voie royale. Dans le 9-2, Haute-Seine, de Chaville à Versailles, sur la RD 910. Et là, on sent que les édiles ont trouvé une jolie solution pour faire du bois de chauffage. Si, si, 220 platanes et tilleuls sous la gâchette de la grande faucheuse, là. Vous pourriez pas nous trouver un expert sympa, là, qui nous dise que les arbres, ils sont dangereux, plein de saloperies, bref, qu'ils sont malades? Ouais, non, vous faites un peu peur, pas trop, mais quand même un peu, parce que les gens, ils y connaissent rien, et on fera passer le truc. Bah, dommage, parce que près de 98% des arbres à Chaville sont sains, 5 peuvent être juste dégommés. Alors le progrès, bah oui, oui, et quelques vagues de poussées climatiques qui n'ont pas l'air d'intéresser tout le monde. Et bah parlons-en. Le progrès en ville, demain, et même aujourd'hui, c'est végétaliser. Alors certes, on dit, place aux jeunes! Mais un jeune arbre replanté a un effet climatiseur 100 fois moins efficace qu'un arbre mature et là, bye bye l'évapotranspiration, car le volume de feuillage est maigre et insuffisant. Alors, élus, on le sait, les feuilles à ramasser, bah ça vous avez pas. Ah, vous avez pas. Alors bon, je vous l'accorde, pourquoi n'a-t-on pas inventé l'arbre qui ramasse ses feuilles tout seul et qui les met dans ses poches? Bah, peut-être parce que l'arbre, il a pris modèle sur l'humain, qui fait tomber maladroitement ses canettes et ses mégots au sol. Voilà. Les racines qui font du mal au bitume, vous n'aimez pas. Les oiseaux qui habitent sans payer de taxes d'habitation et qui chient sur les voitures dans les, voilà, depuis les arbres, bah, vous aimez pas non plus. Mais le climatiseur naturel, la lutte contre les canicules, le bien-être, tout ceci ne rentre pas toujours bien dans le cortex. Les arbres d'alignement sont protégés par le Code de l'environnement, article 350-3. Le quoi? Eh ben, elle a qu'à venir, la ministre. Le collectif Gien Sauvons les arbres dans le Loiret, les platanes dans le Loiret, vient de gagner une bataille après une première série d'abattages. Le maire, monsieur Boulot, ouais, monsieur Boulot, n'aimait pas ces arbres. Sans doute son patronyme les a-t-il pris pour des concurrents, allez savoir. Alors un arbre, non pardon, en langage techno, c'est une infrastructure foliaire. Un arbre, est-ce que ça vote? Non. Mais ceux qui sont abattus pourraient fabriquer des bulletins de vote pour les prochaines municipales. Alors avant d'abattre des résineux de Finlande ou des Landes pour lire le livre de Sylvain Tesson, le mot de l'environnement avec une définition comme chaque semaine, là c'est le... vous allez voir ça, ça va être le mot écocide. Valérie Cabanès, bonjour.
Bonjour Denis.
Vous êtes juriste en droit international et on va parler de la lettre E comme écocide, qui est la destruction de notre maison commune, l'écosystème Terre.
Oui, le mouvement citoyen End Ecocide on Earth a développé en 2015 une proposition d'amendement du statut de Rome, texte fondateur de la Cour pénale internationale, qui permettrait la reconnaissance d'un nouveau crime international, le crime d'écocide. En fait, la définition des crimes de guerre dans le statut de Rome comprend déjà des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, mais il n'existe actuellement aucune disposition pour protéger les écosystèmes en temps de paix.
Aujourd'hui, aucun traité international, pas même l'accord de Paris, ne pose des mesures qui sont contraignantes pour les dirigeants politiques, alors que ce soit pour préserver le climat, la biodiversité, les forêts, les océans, l'air, l'eau douce, que sais-je.
Et pourtant, détruire les conditions de la vie sur Terre n'est pas moins grave, à mon sens, qu'un crime contre l'humanité. Ainsi, la reconnaissance du crime d'écocide a un objectif très simple. Au final, c'est de garantir au plus grand nombre que la Terre reste habitable pour tous.
Alors, il serait caractérisé par un endommagement grave de communs planétaires et d'un système écologique de la Terre.
Oui, les communs planétaires, en fait, ce sont par exemple les eaux internationales, l'Arctique, l'Antarctique, les rivières, les fleuves transfrontaliers, les espèces migratrices. Et ces lieux, aujourd'hui, n'appartiennent à personne. Et donc, sur ceux, ils sont exploités par tous.
C'est ça, on peut faire ce qu'on veut dedans.
Exactement.
Donc, alors, il devrait être quand même reconnu comme sujet de droit, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, pour y arriver?
Alors, en fait, pour préserver leur biodiversité, il faudrait les reconnaître comme des entités juridiques, comme des sujets juridiques, c'est-à-dire qu'ils puissent défendre leur droit à exister pour eux-mêmes.
Alors, on le sait, donc, un écosystème fonctionne quand il est vivant, et évidemment, ça crée de la résilience. Qu'est-ce qu'il faudrait cadrer pour vous?
Ce qu'il manque, en fait, dans le droit aujourd'hui, c'est une vision écosystémique, c'est-à-dire qui prennent en considération comment les écosystèmes fonctionnent et qui posent le cadre qui permette de les protéger.
Ce qui veut dire que les activités industrielles, entre autres, ont intérêt à être cadrées.
Oui, il faut aujourd'hui cadrer les activités industrielles pour finalement préserver les conditions de la vie sur Terre. Ces activités sont à l'origine du dérèglement climatique, sont à l'origine de la 6e extinction des espèces. Mmh. Et aujourd'hui, cette situation est intenable, d'autant plus qu'aucune multinationale ni aucun chef d'État ne peuvent nier les conséquences sur l'écosystème terrestre du modèle économique qu'ils soutiennent. C'est pourquoi je demande aujourd'hui à ce que leur impunité soit levée.
Alors comment estimer la réalité et la gravité des faits qui sont reprochés?
En fait, il existe depuis 2009 une théorie scientifique qui peut nous y aider. Il s'agit de la théorie des limites planétaires. Elle est capable de quantifier les seuils tolérables de modification de l'écosystème terrestre et pourrait servir d'outil pour qualifier le crime.
Et dans quelques instants, Sylvain Tesson et le photographe Vincent Munier vont nous présenter un gros chat plein de taches. Enfin, un bon félin, quoi, une panthère. Après cette jeune femme. Sur France Inter, CO2 Mon Amour, c'était Brittany Howard, Stay High. Oui, restons perchés, donc restons là-haut. J'aime bien vous emmener, moi, chaque semaine, gratter la terre, ramasser, alors je sais pas, une vague, entrer en joie à la vue d'un renard, d'une cloche de vache, d'une hirondelle. Bref, aller sur le terrain et cueillir un bol d'air. Bon, alors là, avec ma carte Navigo et mon vélo, j'ai pas pu aller dans l'Himalaya, au-dessus de la haute vallée du Mékong, pour accompagner Sylvain Tesson. Mais j'ai quand même fait un effort. Et voilà, et on va regarder cet ouvrage, La Panthère des Neiges, chez Gallimard.
Je ne sais pas à quel étage je suis. Là, je ne les compte plus. Rejoindre Sylvain Tesson, c'est excellent pour le cœur et pour les jambes.
Bah dis donc, on est arrivé dans votre pigeonnier. Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour Denis Chessou.
Alors Sylvain, je me suis dit, ici ça va être bien parce qu'on va pouvoir parler de pigeons, on peut parler de chats de gouttière et en fait on va parler de panthères. Alors ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que c'est quand même une histoire quand même un petit peu initiatique et j'allais presque dire qu'une des choses que vous avez apprises avec ce livre, c'est que vous avez détricoté peut-être une impatience chronique en étant avec Vincent Munier en train de guetter cet animal.
Oui, j'ai eu la chance d'être invité un jour par Vincent Munier, dont je connaissais le travail, mais que je ne connaissais pas personnellement. Et un jour, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance d'être invité par ses propres soins, par sa bienveillance, sur le plateau tibétain pour mener des affûts d'observation de la faune d'altitude. Il me proposait en quelque sorte d'aller entre 4 et 5 000 mètres d'altitude dans les bordures septentrionales du Changtang, qui est le grand plateau central du Tibet, pour aller observer la faune qui se trouvait là-bas. Herbivores, carnassiers, rongeurs, rapaces. Pour moi, c'était une expérience tout à fait intéressante. Une de plus, me disais-je. Alors je lui ai dit, mais bien sûr, je te suis. Et en fait, j'ai découvert beaucoup plus qu'une technique d'observation des animaux. J'ai découvert à la fois un mode de vie, une manière d'être au monde, qui venait contredire totalement ce que j'avais bâti, c'est-à-dire une vie de voyage, d'accumulation d'imprévus, de défilement de kilomètres, de succession de péripéties, une vie de rocambolesque, une vie de trébuchement, une vie d'imprévus, une vie de perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés.
Un peu de hamster superbe.
Oui, on peut dire ça, oui, c'est ça, une vie d'agitation, quoi. Et il me proposait l'exact antipode de cette vie d'agitation, de cette vie de voyage, c'est-à-dire il me proposait de m'initier aux vertus de ce que vous impose l'affût, c'est-à-dire l'immobilité, le silence, l'attention, la discrétion et la patience.
On doit presque se soustraire au monde, en tout cas disparaître lorsqu'on fait un affût, parce que c'est un pari l'affût.
Oui, il y a une forme de dissimulation, il y a une forme d'oubli de soi, il y a une forme de lutte absolue contre son ego. Quand on mène un affût, j'en ai pas mené beaucoup, il m'a emmené à deux reprises au Tibet, mais quelques jours. Mais ça m'a suffi à comprendre, à saisir vraiment qu'il y a une forme de dilution de soi-même. Toute la vie dans la ville moderne vous invite à vous exhiber, à vous exprimer, à sortir de vous-même, à faire beaucoup de bruit, à vous étaler dans la superficie de l'existence. Et tout d'un coup, l'affût vous demande de faire l'exact rebours de toutes ces catégories-là. L'affût vous demande de vous oublier, de cesser de vous plaindre, de cesser de vous considérer et de regarder avidement, avec dévotion, avec vénération, la beauté qui s'organise autour de vous.
Alors c'est comme ça qu'on devient un sniper de la beauté. Moi je suis ravi de retrouver donc Vincent Munier. Bonjour Vincent.
Bonjour Denis.
Alors Vincent, donc grand photographe maintenant animalier. C'est marrant parce que moi je vous ai connu donc à l'âge de 20 ans, donc j'en avais le double aujourd'hui. Et alors lors de cette virée, vous en avez fait bien sûr plusieurs pour découvrir cette panthère des neiges. En fait il y a d'autres animaux que vous avez découvert avant. C'est-à-dire qu'il y a le yak, il y a d'autres chats, le chat palace.
Oui, moi je reste un éternel grand rêveur et j'assouvis des rêves de gamin parce que c'est tous ces animaux m'ont toujours fasciné dans les livres. J'ai vraiment, moi c'était pas de la haute littérature, mais c'était de la littérature naturaliste, donc Hénard ou Géroudet ou plein d'autres. Et toutes ces espèces, j'ai toujours voulu essayer de les voir. Ça a été l'ours, ça a été les loups, ça a été. Et là, je vis mes rêves et j'arrive à tenter d'émerveiller un petit peu les gens avec ce genre d'art de vie, comme tu dis, Sylvain. Et après, c'est souvent une passion de solitaire. Et je trouve que là, désormais, on a besoin d'aller un peu plus loin. Je trouve que la belle image ne suffit pas. Et je trouve que d'amener Sylvain Tesson là-bas sur le plateau du Tibet, c'est un nouvel écrin, c'est un nouvel écho un petit peu à mon travail. Parce que là, on est les mots associés à l'image et puis les mots de Sylvain, voilà, ben moi c'était un honneur qu'il accepte cette invitation parce que ça va nous permettre, voilà, d'être d'une complémentarité sans faille.
Et parlez-nous quand même de cette première rencontre. Il y en a eu plusieurs quand même. La première rencontre avec cette Panthère des Neiges, et peut-être nous dépeindre un peu ce qu'est une Panthère des Neiges. Alors je sais que Sylvain a une très très jolie phrase. Il disait que c'était Dieu donc qui, au cours d'un moment d'écriture, a épongé son encre sur un buvard et ça a donné donc cette merveilleuse Panthère des Neiges.
Alors moi, c'est toujours un animal qui m'a hanté après, encore une fois, des lectures de Chaleur, de Mathiesen, et c'était, comme le Loup Blanc, une quête de plusieurs voyages. Je l'ai vu au bout du quatrième voyage seulement. C'était assez long, et c'est ce qui me plaît encore plus. Plus il y a une certaine difficulté, plus la rencontre est forte, et émouvante et gravée. Et cette première panthère, oui, je l'ai vue grâce à un grand corbeau, en l'occurrence.
Comme toujours annonciateur, hein, très sûr. Jamais loin de l'aigle, peut-être jamais loin de la panthère.
Absolument. Et puis c'était aussi comme une apparition. Et là, c'était assez difficile à décrire finalement.
Alors, moi, je me retourne vers vous, Sylvain Tesson. Cette fameuse panthère, c'était quoi? C'était un choc, parce que à force de tellement de désirer cet animal, vous avez quand même fait ça par quoi? Du moins 25, moins 30, 40 degrés. On est entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Donc, comment ça s'est passé la première rencontre avec cette panthère, cet animal qui est d'ailleurs fait pour les endroits les plus insaisissables?
La première fois que nous l'avons rencontré, lorsque nous faisions ce séjour commun, parce que Vincent l'avait vu à multiples reprises lors de précédents séjours, la première fois qu'on l'a rencontré, c'était au fond d'un canyon karstique sur la rive gauche du fleuve Mekong, dans la bordure orientale du Tibet, à 4500 mètres d'altitude, à 7 heures du soir. Le crépuscule tombait, il y avait presque plus de lumière, et au pied d'une falaise, elle se reposait dans les buissons. Il faut savoir que c'est un animal qui s'est adapté à la très haute altitude et qui a adopté une technique de chasse qui repose non pas sur la rapidité, comme le léopard, qui court après ses proies et qui les rattrape, mais qui repose sur le camouflage. Il a une capacité de dissimulation absolue, que ce soit dans les herbes, dans les rochers ou dans la neige. Et c'est pour ça qu'elle est très difficile à voir. Elle se dissimule, elle s'absorbe totalement au substrat géologique. Et là, nous l'avons vu au pied d'une falaise. Vincent a cette espèce de capacité superbe que moi j'appelle un art, plus qu'une technique. D'abord de savoir où les bêtes sont susceptibles de passer et de détecter leur présence. Et on l'a regardée, on était peut-être à 150 ou 200 mètres d'elle, et mon œil a mis pas mal de temps à comprendre, enfin c'est mon esprit qui a mis du temps à comprendre ce que mon œil voyait déjà. C'est-à-dire que comme je ne l'avais jamais vue, qu'elle était tellement insoupçonnable pour moi que je croyais qu'elle n'existait pas, mon esprit se refusait, j'étais en fait pollué par ma raison. Et ce que mon œil voyait, mon esprit refusait de le croire. Et elle a mis longtemps à prendre forme, à s'incarner vraiment. Et tout d'un coup, j'ai reçu cette face superbe. C'est un très beau visage, une haute face. Et je l'ai vue et j'ai été saisi. J'appelle ça une apparition. C'est un mot qui est ressorti au domaine du sacré. Mais pour moi, c'est une apparition. Là, vous voyez, je suis revenu à Paris. Nous étions il y a 48 heures au Tibet. Mais quand je ferme les yeux, le fait de savoir qu'il y a ces ours, ces loups, ces panthères, ces vautours, ces félins, qui mènent leur vie, qui mènent leur tragédie, qui mènent leur comédie, qui vivent dans l'ordre, qui vivent dans l'équilibre, qui ont leurs problèmes, qui ont leurs défis. Eh bien, tout ça est, ça m'aide beaucoup, ça accroît le bonheur de vivre, en fait, de savoir qu'il y a ces autres.
Et ça enrichit évidemment nos rêves. Et la plupart du temps, dans la nature sauvage, en fait, on est regardé et on n'en sait rien.
Oui, tout à fait. Je rebondis un peu sur ce que dit Sylvain. Hénard disait...
Un formidable raconteur du monde animal, voilà. Et dessinateur, hein, Hénard.
Et oui, Robert Hénard, c'est ce philosophe artiste, voilà, suisse, disait « Une forêt sans ours n'est pas une vraie forêt ». On pourrait dire pareil dans ces canyons. Quand on sait la présence de cet animal, on est dans une autre atmosphère, totalement. Et aussi avec la présence du loup, du lynx. Là, on a vu ours de l'Himalaya, le lynx du plateau du Tibet, la panthère, les loups. Et même si on ne les voit pas et qu'on est vu, pour ma part, je me sens bien, je me sens vivant. Et c'est un sentiment qui m'est indispensable. Et il y a un manque. Il y a un manque quand je me balade dans certaines forêts où il n'y a pas ces grands prédateurs, ces grands maîtres qui dégagent une âme qui est là.
Et vous dites, Sylvain, que cet animal, c'est un esprit de la montagne qui est descendu en visite sur la terre.
C'est une manière un peu compliquée, un peu sophistiquée, peut-être
un peu lyrique.
Oui, peut-être un peu trop élaborée, quoi. De dire que la panthère, c'est le degré absolu de l'adaptation à l'hostilité géographique. On se dit au bout d'un moment que la vie a beaucoup de mérite à s'être déployée et avoir prospéré dans ces altitudes. Il faut imaginer quand même que l'air, l'oxygène est raréfié, le climat est extrêmement continental, c'est-à-dire que les étés sont brûlants et les hivers sont glaciaux, il y a des amplitudes thermiques terribles, les proies sont assez rares, et les proies qui sont des herbivores vivent elles-mêmes d'une graminée très fragile et très peu nourrissante. Donc tout ça est dur, et pourtant la vie s'est déployée là. Et c'est ça que j'appelle l'esprit de la montagne. Cette adaptation extraordinaire à des conditions qui normalement devraient priver ces immensités de la vie, eh bien cette adaptation a permis la vie. Et de quelle vie ? C'est superbe, parce que moi, je pensais qu'on allait simplement se contenter de voir la panthère. Je vous avoue, j'étais un peu parti pour ça, moi. J'étais dans la vision spectaculaire des choses. Je voulais voir l'animal le plus médiatique. J'étais encore dans la société du spectacle. Et ce qui m'a intéressé, dans les affûts que Munier me proposait, c'est que toutes les autres bêtes qui participent de ce grand jeu, de cette grande orfèvrerie animale de la montagne, toutes les autres bêtes, les yaks, les chèvres bleues, et même les bêtes qui paraissent les plus ordinaires, les chiens de prairie, les petits rongeurs, les lièvres laineux, les oiseaux, tous font partie de cet immense peuple de l'ordre, de l'équilibre et de l'harmonie. Et j'ai été très ébloui de voir que Vincent Munier n'allait pas traquer que la tétralogie carnassière hypermédiatique, c'est-à-dire l'ours, le lynx, le loup et la panthère, mais il s'enchantait tout autant quand il voyait passer un bruant des neiges ou une nivrole que lorsqu'il voyait la panthère défiler comme au 14 juillet du monde zoologique.
Vincent Munier, je vous laissais partir parce que je sais que vous rentrez là dans vos Vosges. Nous, on se retrouve cet hiver avec des raquettes et on va partir sur vos chaumes. On est bien d'accord.
Essayez d'aller voir le félin des Vosges.
Bientôt, Vincent.
Au revoir, Denis.
Ouais, je pense que ce sera un bel affût aussi avec Vincent Munier. On n'a pas terminé avec cette panthère. Bah, surtout quand même, en plein cœur de Paris, on a encore des petites choses à rajouter avec Sylvain Tesson, vous l'avez compris. Alors, une panthère ? Non, chanteuse.
Doux réveil, au goût amer, était-ce un cauchemar ? Oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé, mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi, j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. C'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres et je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée.
C'était donc les matins Angèle, donc les matins à Bruxelles ou comme à Paris. De toute façon, c'est pareil, c'est humide, c'est gris en ce moment, c'est comme ça.
Moi, souris, fils de Badou, je vous présente la Panthère Noire.
CO2, mon ami.
Et maintenant, le valeureux prince
Denis Chessou
devra être dépouillé de la force de la Panthère Noire, notre déesse.
Sur France Inter.
De la panthère noire à la panthère des neiges, combien y en a-t-il? Bah, selon l'INSEE, on dit qu'il y en a un peu plus de 5000 dans l'arc himalayen. Donc, elle a du pot parce qu'elle est quand même extrêmement discrète. La Chine a quand même lancé un programme de protection qui marche plutôt pas mal en Asie centrale. Parce qu'on aime bien sa peau. Ah bah ouais, on aime bien sa peau, on aime bien ses griffes aussi, on fait quand même pas mal de petites choses avec ça. Bref, elle est dans les espèces vulnérables, mais on va continuer à la guetter presque là sur les toits de Paris. Sylvain, je suis une panthère, je me nourris de quoi quand je suis là-haut, entre 4000 et 5000 mètres?
La panthère se nourrit de chèvres bleues, qui sont des caprins d'altitude, de yaks, de chats manoules. Le chat manoule, c'est le plus petit des félins du Tibet, et de marmottes. Et de temps en temps, quand les temps sont durs, quand les chasses sont difficiles, elle fait quelques prédations dans les troupeaux de yaks domestiques, qui sont des proies plus faciles. C'était un peu, nous sommes là dans une dialectique que vous connaissez bien, qui est celle du fauve dans un milieu habité, qui de temps en temps va se servir au supermarché des troupeaux domestiques.
Comment on se sent quand on revient dans la lessiveuse du monde? Vous quittez cet univers. Alors je sais que vous l'avez fait rapidement parce que en 10 heures d'avion, on est là-bas. Et vous rappelez d'ailleurs à juste titre que Marco Polo, pour un voyage presque analogue, donc avait mis 4 ans. Mais comment on se sent de nouveau quand on arrive dans la civilisation?
Oui, mais il y a un moment où il faut accepter d'être l'enfant de son siècle. Alors nous, on ne met pas 4 ans pour aller en Chine. On met 10 heures. On prend un avion à Shanghai et puis on revient. Comment faire pour supporter le contraste? Ben, précisément parce qu'on a vécu une situation de pur enchantement et de véritable magie. Moi, je tiens à dire qu'il y a une forme de magie dans ces heures passées à côtoyer les bêtes, à les voir, à se rendre compte que cette réalité est un jardin absolument enchanté, qui existe encore, qui se réduit, bien sûr, parce que l'anthropisation du monde est telle que ces zones se réduisent, mais elles existent encore. On peut avoir le privilège immense d'être le spectateur de ce chatoiement de vie, et le simple fait de savoir qu'il est là, le simple fait de fermer les yeux et de se souvenir des charges de la panthère dans les troupeaux d'herbivores, ce simple fait-là aide à supporter le retour dans un monde qui est beaucoup plus absurde.
Sylvain Tesson, est-ce que vous avez découvert les raisons intimes en fait de ce voyage? Il y a bien sûr eu au départ une rencontre avec Vincent Munier, mais pour aller plus loin, est-ce que vous avez gratté ça?
J'ai eu un saisissement un peu supérieur au simple contentement de voir une bête qu'on ne s'attendait pas à voir. Et mon saisissement, c'est que les deux fois où je l'ai vu, par un phénomène étrange, un peu magique, très intérieur, très intime, très personnel, la vision de la bête m'a ramené au souvenir d'êtres très chers, qui ont compté beaucoup pour moi, qui étaient des êtres d'amour, et que j'ai perdu. Ma mère, parce qu'elle est morte, et une femme, à cause de la séparation. Et cette présence de la panthère a été un très étrange reflet de transfert de cette absence. Comme si, à chaque fois que la panthère arrivait, et ces femmes qui me manquaient apparaissaient dans son image. Ça peut paraître quelque chose de tout à fait magique, de vaguement chamanique. On pourrait croire que c'est de la pensée un peu abstraite et un peu acrobatique. Mais chez moi, ça a été quelque chose de très profond, de très immédiat, de très évident. J'avais l'impression que la vision de cette bête qui m'était offerte ramenait les fantômes qui étaient enfouis au fond de mon souvenir.
Et peut-être aussi que l'altitude, le Tibet, se prête peut-être davantage à cela, ou...
Mais certainement, on est influencé par les mondes, les écosystèmes dans lesquels on vit, les écosystèmes naturels et les écosystèmes spirituels. Or, le Tibet est une haute terre de l'intériorité. C'est un endroit où le bouddhisme s'est juché péniblement, d'ailleurs, parce que c'est très haut, au Xe siècle, après Jésus-Christ, bien après la révélation bouddhique dans la plaine indo-gangétique, et le bouddhisme a rencontré au Tibet une religion préexistante qui s'appelait le Beun, et qui était une religion beaucoup plus chamanique, beaucoup plus panthéiste, beaucoup plus animiste. Et la coïncidence du bouddhisme avec cette religion originelle a donné quelque chose qui s'appelle le bouddhisme tibétain, et qui est un bouddhisme très particulier, où la spiritualité intègre l'idée de la coexistence permanente de la vie, de la mort, de la destruction, de la germination, de l'éternel retour, de la coexistence de la création de la vie et de son annulation par la mort. C'est très étonnant, cette coexistence permanente de la morbidité dans tous les actes tibétains. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que cette morbidité n'est pas morbide, en fait. C'est simplement le terreau qui est nécessaire à la reproduction, tout à coup, du miracle de la vie. Et finalement, quand on voyage au Tibet, on finit par s'imprégner profondément de cette spiritualité. Et le fait de voir des bêtes, on finit par avoir l'impression que les bêtes vous offrent une espèce d'explication du texte bouddhique.
De quoi nous consolent les animaux ?
Plus qu'une consolation, c'est un enseignement que les bêtes nous donnent. Elles nous enseignent qu'elles sont très rares et que donc il faut être patient. Elles sont très discrètes, alors il faut être très attentif. Elles sont souvent absentes, alors il faut être plein d'espoir. Elles sont presque invisibles, alors il faut être extrêmement aux aguets. Il faut avoir une grande acuité du regard. En gros, elles nous donnent l'enseignement de la présence. Il faut être là. Or, l'homme semble avoir une obsession, c'est d'échapper à ce réel. Il veut l'augmenter, il veut une vie éternelle, il veut des outre-mondes, il invente des chimères.
Il ne se repose pas sur ce réel.
Mais c'est incroyable. Nous sommes cinglés. Nous sommes complètement cinglés de méconsidérer ce jardin incroyable qui nous a été donné en partage, et que non seulement nous méconsidérons, que nous usons, mais que nous dégradons à une vitesse incroyable. Et au fur et à mesure que le réel se dégrade, alors tous les discours messianiques, tous les discours qui nous entraînent à rêver et à penser à un outre-monde au lendemain qui chante, mais tous ces discours-là augmentent. C'est assez étonnant. Il y a un rapport proportionnel entre la dégradation du réel et la montée des discours chimériques et des illusions des lendemains. Mais il y a quand même quelque chose d'évident, c'est que quand on ouvre l'œil et quand on apprend à s'émerveiller de toute l'efflorescence du vivant, de tout ce que l'évolution a créé formellement pour perpétuer cette espèce de miracle de la vie, c'est-à-dire la continuation d'êtres mono ou pluricellulaires qui réussissent à se maintenir, à se développer et à se reproduire, eh bien le fait de rentrer en état d'admiration et d'émerveillement peut-être nous donner envie d'être un peu plus donné en partage.
Qu'est-ce que pourrait nous dire un Homère, voire un Ulysse, sur notre merveilleuse société aujourd'hui ? En tout cas, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, peut-être de nous ?
C'est pas qu'il pourrait nous le dire, c'est qu'il le dit déjà dans l'Iliade et l'Odyssée. Dit une seule chose, l'homme, pour vivre dans ce que les Grecs appelaient la vertu ou l'héroïsme, l'homme doit d'abord se conformer au spectacle mathématique que lui offre la nature. Et apprenez que la nature parfois a des options grandioses, des options magnifiques, parfois elle produit jusqu'au trop-plein, mais elle finit quand même par s'arrêter. Toute bête s'arrête. Toute bête connaît sa limite, toute bête agit selon sa nécessité. C'est une très belle phrase d'Aristote. Les bêtes font leur part de vie et de beauté. Toute bête sait quelle est sa limite, jusqu'où elle doit s'arrêter. Et malheureusement, nous sommes une espèce animale, qui a décidé que notre nature était de dépasser nos limites. Et c'est tout notre malheur, c'est que nous avons franchi le parapet.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Sylvain ?
En tout cas, moi, ce que je me souhaite, c'est de recommencer à vivre les moments de l'affût, parce que c'est des accroissements et des enrichissements incroyables des journées de ma vie. Je voudrais, je le ferais, repartir dans des immensités où se cachent des bêtes, continuer à me coucher dans la rocaille, à ouvrir l'œil et à rester parfois de très longues heures à regarder un horizon vide où je sais que peut-être apparaîtra une bête. Et alors à ce moment-là, ce sera un salut à la beauté. Mais j'ajoute que on n'a pas besoin d'aller au Tibet à 5000 mètres d'altitude pour vivre ce saisissement de l'affût. Moi, j'ai compris que l'affût n'était pas uniquement une technique d'observation, mais que c'était un mode de vie. Et je suis sûr que là, sur ma à ma fenêtre à Paris et dans une forêt de la région où je vis, c'est-à-dire l'Île-de-France, à la terrasse d'un café, sur les rives de la Seine. Et je reproduirai, je traduirai ce que j'ai compris et ce que j'ai vécu grâce à Meunier sur le plateau tibétain, c'est-à-dire l'extraordinaire enrichissement que vous procure le fait, enfin, d'ouvrir l'œil.
Merci beaucoup Sylvain Tesson, puis à très bientôt.
Merci, au revoir Denis.
La Panthère des Neiges, pour nous faire du bien, donc chez Gallimard, mais vous le savez, parce qu'il a fait quand même une très belle promo, comme on dit Sylvain Tesson. Et puis regardez aussi avec émerveillement, donc avec saisissement, comme il le disait, les photos de Vincent Meunier, donc ce petit gars, tel un épicéa de base qui a poussé dans les Vosges, mais qui a aussi poussé donc les fuseaux horaires.
CO2, mon amour.
Fond sans vouloir m'avait révélé à moi-même.
Denis Chessou.
Jusqu'à ce soir, j'ai jamais osé me laisser aller.
Sur France Inter.
On est normal. Tout ce qui a plus normal.
Ouais, mais on aime bien se laisser aller sur France Inter. On aime bien se laisser aller avec une citation de fin dite par Jacques Bonafé.
La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Keynes.
Nous avons préparé cette émission avec Camille Blanès, c'est Jérôme Boulet qui l'a réalisé, c'est lui donc qui colorise ses reportages. Alors ce semi-reportage, on va dire, était donc mixé par Julien Dumont, Florent Layani était aujourd'hui à la technique. C'est Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Je vous dis que le podcast, si vous le souhaitez, eh bien il est à votre disposition. Le Twitter, c'est donc aussi Denis Chessou. Et puis, que vous dire d'autre ? Eh bien, que la semaine prochaine, on va partir dans la Creuse. Et dans cette Creuse, eh bien, nous allons retrouver un homme qui s'appelle Olivier Noyas et une rivière. Alors cette rivière, c'est pas l'Orénoque, non, ça s'appelle la Brézentine. C'est 24 kilomètres délicieuses, et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a eu un combat écologique extrêmement important, qui a duré un bon paquet d'années, et ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu cette association, il y a eu un véritable affectif sur cette Brézentine, et donc Olivier Noyas nous en parlera.